Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous rencontrons aujourd'hui Léonore Chastanier au sein de son exposition Repli stratégique à l'espace Saint-Ravi à Montpellier. Au travers des sculptures en céramique, des dessins et des textes, l'artiste cherche à retranscrire des espaces intérieurs, comme celui de l'atelier ou de la maison. En ce qui concerne la sculpture, il s'agit des modelages en terre. C'est un processus long qui lui permet de s'approcher au plus près des choses qu'elle reproduit et qui sont toujours des objets familiers, comme par exemple des vêtements pliés. Et ces objets, qui servent de modèle, sont parfois légèrement modifiés en échelle et apparaissent, en tant que sculpture, un peu plus grands ou plus petits en taille. Puis, on trouve aussi dans l'exposition des constellations d'objets en miniature. Il s'agit de sortes de chambres dans lesquelles sont disposées des choses quotidiennes et parfois peut-être moins quotidiennes, en tous les cas moins facilement identifiables en tant que telles. Puis, on y rencontre également des textes. Ces textes sont montrés comme les dessins au mur légèrement rehaussés. Ces textes, elles aussi, captent des moments furtifs, passagers. Mais écoutons maintenant Léonore Chastanier parler de sa pratique. Bonjour Léonore,
bonjour.
Enchantée de te retrouver aujourd'hui de ton exposition personnelle à Saint-Ravi, à Montpellier. Je t'ai passé rapidement lors du vernissage l'autre jour, et là on se retrouve dans l'espace. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit tour de l'exposition ?
Oui, bien sûr, si tu veux. Mais tu peux me dire ce par quoi tu voudrais commencer, si tu veux.
Alors là, on monte les trois marches qui nous amènent comme ça sur un plateau. Et on se retrouve devant une céramique en forme de pull plié. Un pull froissé, assez grand.
Le thème du vêtement plié, mais plié effectivement à la va-vite, donc on voit encore les plis. C'est un thème que j'ai commencé à prendre au fur et à mesure. J'étais chez moi un jour et puis il y avait un petit moment de latence. Et puis j'ai eu envie, j'avais de la terre, j'avais de l'argile chez moi. Et j'ai eu envie de sculpter un t-shirt. Et ça m'a fait du bien. J'ai pas trop compris à savoir pourquoi. Enfin, j'ai pas trop cherché à savoir pourquoi et... Et puis je l'ai fait cuire au four à céramique aux Beaux-Arts où j'étais. Et j'ai gardé ce vêtement chez moi. Et j'ai aimé ce qui m'apportait au quotidien, ça, une espèce de stabilité. Et puis à partir de là, souvent j'ai eu envie à nouveau de retrouver cet état de stabilité. En sculptant d'autres vêtements, des vêtements à moi, pliés, simplement. Et l'objet que tu vois là, c'est une des versions de cette suite-là.
Donc le vêtement, il devient lourd, il devient stable. C'est un objet du quotidien que tu extrais, qui pourrait être aussi autre chose, éventuellement.
Autre chose, j'ai beaucoup essayé autre chose. J'avais des petits trucs dans mon sac à main, des porte-monnaies, des trucs comme ça. Des affaires d'amis à moi. J'empruntais des vêtements à eux, etc. Ou des pantalons, des trucs. Et parce que je me disais, bon, c'est quand même bizarre cette obsession sur, cette obsession sur le t-shirt plié. C'est un peu bizarre. Et... Et puis non, je les sculptais moins bien en fait. Je les regardais avec moins d'attention et le résultat était moins précis, moins bien.
Alors même les vêtements récupérés par d'autres personnes ne fonctionnent pas?
Non.
Donc c'est forcément des vêtements qui traînent chez toi?
Oui. Ouais, c'est des vêtements que j'ai portés et qui... Et il y a aussi ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire qu'un vêtement, par définition, c'est mou, que l'argile, au départ, c'est une matière qui est molle. Sauf que, à la différence du textile, l'argile, ça, c'est une matière qui opère une transformation radicale, puisque de molle, elle devient dure, et non seulement dure, mais même elle traverse les siècles, puisque c'est ce qu'on retrouve des millénaires après dans le sol comme trace de la civilisation. Donc, alors que c'est la matière la plus intangible, enfin la plus, comment dire, on peut en faire ce qu'on veut. Et en même temps, c'est la matière qui est la plus résistante. J'aime bien ce contraste. Et le vêtement, j'étais un peu obligée d'y réfléchir après, parce que je voyais qu'il y avait cette forme. J'étais genre, mais stop. Et j'ai été obligée un peu d'y réfléchir, pourquoi le vêtement. Et je pense que... Ça a à voir avec le fait que c'est... Ça dit beaucoup de... Je pense qu'en tant que personne, on met énormément de nous. C'est un repère, je pense, au quotidien. On met beaucoup d'affect sur ces objets. C'est tout proche de notre peau. Ça nous touche. En même temps, c'est la première chose que les autres voient de nous. Donc c'est vraiment la frontière entre intérieur et extérieur, ça dit quelque chose aux autres, mais ça nous protège. Et je pense que ça fait partie des rares objets qu'on investit autant et qui peuvent servir de repère.
Tu parles d'une forme d'ancrage ?
Oui, c'est ça. Je pense que c'était une façon de... On verra plus tard, je pense, mais dans l'exposition, il y a à la fois des objets en céramique et à la fois des textes. Et pour moi, l'association des deux est importante et progressivement, c'est un peu cette direction que j'aimerais creuser. Et c'est plutôt dans les textes que j'aborde cette question-là, mais il y a... beaucoup dans ma vie de déracinement ou de sentiment de pas être à l'endroit où je devrais être. Et écrire en soi, c'est aussi très immatériel. Et l'argile, c'est l'inverse.
Je comprends. Ouais. On continue notre tour ? J'essaie de réfléchir où aller. On a le temps pour regarder peut-être trois ensembles. Donc ouais, je me dis, peut-être on va là.
Ouais.
D'abord, j'aimerais voir tout. Parce que là, alors tout à l'heure, à côté de la céramique en forme de pull, on trouve une maquette. Une maquette d'une chambre. Et puis quand on se tourne, on voit de nouveau une céramique d'un pull, mais cette fois-ci tout petit. Donc plus petit que réel. Et quand on continue l'exposition, on se retrouve ici devant un socle, de nouveau avec ses assemblages. Alors peut-être ce n'est pas des chambres, mais en tout cas c'est des rectangles sur lesquels se trouvent des objets miniatures.
Je suis partie des vêtements pliés vraiment comme la base, le socle d'un repère. Mais je me suis rendu compte que plus largement, ce qui m'intéressait, c'était la sphère matérielle d'un environnement quotidien, de l'ordre de la chambre, que j'aimais aussi beaucoup des objets comme les lits, les matelas, les rideaux, les canapés, tout ce qui est un peu de l'ordre de cette douceur ou de ce confort qui participe à une sorte d'atmosphère. Et j'ai voulu tester ces petits formats de maquettes qui vont un peu à l'inverse de la céramique puisque c'était un peu contraindre la matière. C'est des formes extrêmement précises, très minutieuses, tout est lisse et carré, ce qui est assez difficile à faire avec de la céramique, et c'est ça qui m'intéressait aussi.
Sur un des rectangles, on voit des fauteuils, un ordinateur, sur un tapis. Après, on voit aussi une chambre avec un lit, avec une sorte d'anneau par terre, un creux et un violoncelle, ainsi que un paravent. Et après, ça devient vraiment très étrange parce qu'on se dit, est-ce qu'on n'est pas dans une expo d'art contemporain ici? Est-ce que c'est le cas?
Un petit peu. En fait, oui, j'aime bien ta façon de poser la question parce que je suis un peu frustrée parce que, idéalement, ces fameuses céramiques qu'on a vues tout à l'heure, d'autres qu'on a sous les yeux qui sont grandeur nature, idéalement, j'aimerais vraiment pouvoir prendre en charge intégralement la façon de les présenter. J'aimerais pouvoir me détacher du socle blanc dans un espace et j'aimerais pouvoir avoir toute une pièce où je peux repeindre les murs, où je peux changer le sol, où je peux tout précisément organiser de façon à ce que chaque céramique puisse être vue d'une façon très précise.
Et quand tu dis ça, tu penses à des couleurs aussi ?
Ça, c'est un peu dans la direction de ce que j'ai un tout petit peu fait dans la dernière salle, mais de façon... encore, c'est un peu une étape. Mais disons que là, le fait de faire ces maquettes, dans un premier temps, c'était une façon d'avoir une étape de réflexion, de pouvoir déjà réfléchir en termes d'espace.
Oui, donc là, c'est un peu des prémices d'une, d'une façon de mettre en scène certains éléments de ton travail. Donc.
J'aimerais beaucoup. J'adorerais pouvoir aller vers un truc de mise en scène. Et puis, t'as soulevé aussi le fait, par exemple, que dans les maquettes, il y avait un petit violoncelle. J'aimerais, dans mes projections un peu délirantes, pouvoir orchestrer quelque chose presque. Avoir un espace que je puisse vraiment précisément construire. Et peut-être un peu le théâtraliser aussi. Le texte existe dans cet accrochage-là sous la forme écrite, mais il pourrait exister sous une forme orale. Dans les textes, il est souvent aussi question de musique. J'adorerais, dans une espèce de fantasme futur, pouvoir proposer à certains musiciens, musiciennes auxquels je pense de jouer. Mais bon, on n'y est pas pour l'instant, comme tu vois, c'est des étapes.
Oui, bien sûr. Alors, il faut peut-être ajouter que l'espace ici à Saint-Rapi s'y prête absolument pas. Peut-être qu'il faut vraiment le souligner que c'est toujours un exploit de montrer ici, parce que l'espace est très marqué par l'architecture. Donc, scénographier, ça voudrait dire. C'est pas un white cube, mais dont tu parles, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, évidemment, c'est tout à fait possible de mettre en scène ton travail dans d'autres espaces.
J'adorerais le white cube. Bon, c'est vrai que c'est un peu idiot parce que c'est la forme. Mais ça offre une possibilité de projection qui est quand même un peu excitant. Et il y a ce que tu dis du fait que ici l'architecture est très marquée puisqu'il y a il y a beaucoup de pierres, les plafonds sont voûtés, il y a vraiment l'architecture montpelliéraine un peu médiévale. qui est pas du tout dans ma ligne de production, enfin de ce que j'essaye de ce vers quoi j'essaie d'aller. Mais il y a aussi le fait qu'on ne peut pas peindre les murs, on ne peut pas percer les murs, etc. Donc il y avait plein de contraintes qui ont fait que j'ai mis les petits galets pour me rapprocher au maximum d'une certaine direction, tout en sachant qu'il y avait des choses à respecter et que je respecte avec plaisir, bien sûr.
Donc là, on est devant une installation un peu plus vaste, où il y a un démarquage au sol pour que les gens marchent pas finalement sur la scène, on peut dire.
C'est
sur,
ça.
Les socles sont en double, donc il y a comme ça un socle plus large, enfin un socle qui est surmonté par un socle plus étroit, et sur ce deuxième socle on trouve des vêtements pliés, d'une coloration qui diffère. Donc on a une fois l'argile plutôt gris et l'autre rougeâtre. Et l'ensemble est aussi posé sur un sol qui est de l'ordre du tapis.
Oui.
Et un peu pailleté.
Oui. Bon, alors le fait qu'il soit pailleté, c'est un détail très pragmatique. Simplement, comme je me suis dit que les gens allaient marcher dessus malgré la démarcation, au dernier moment, j'ai décidé de ne pas retirer entièrement le film, et on voit que j'ai bien fait parce qu'il y a déjà des traces de pas. Mais voilà, le fait qu'il soit scintillant est un hasard.
Et quand tu parlais de couleurs tout à l'heure, alors quand tu parles de couleurs, c'est de la couleur déjà ?
Moi, ce que j'aime, c'est la couleur de la terre. Je trouve ça beau. J'ai pas envie de rajouter de la couleur à celle-là. Quand j'ai commencé à faire de la céramique, je suis devenue un peu folle. J'ai voulu tester toutes les terres un peu bizarres qu'il y avait dans la boutique, sol argile, céradelle. J'allais tester plein de terres différentes. Et puis en fait, progressivement, j'ai tout épuré et je me suis concentrée sur les couleurs principales de l'argile, à savoir terracotta. Que je trouve, c'est beau. Je trouve que ce rouge terracotta, il est beau et se suffit à lui-même. Ensuite, toute la gamme un peu vraiment naturelle qui va du blanc au noir en passant par le gris. Et quand je disais que je voulais peut-être scénographier davantage ou vraiment contrôler la façon dont les céramiques sont présentées, notamment par la peinture de l'espace, c'est plutôt en accompagnant ces couleurs-là de la terre, en prenant pas le pas dessus, mais effectivement en cadrant un peu les choses, en ramenant tout à une espèce de truc un peu discret. Le blanc, le gris, voilà. Accompagner aussi le bleu, quelques touches de bleu ciel. voilà.
Et quand on parle des couleurs de la musique, ça serait quel type de musique ?
De la musique que j'ai découverte dans un premier temps aux États-Unis, que j'ai continué à écouter, mais de la musique plutôt expérimentale et en tout cas qui se fait avec des vrais instruments, pas de la musique électronique. C'est une espèce de, je pense que la terminologie, c'est jazz expérimental peut-être, ça peut être plein de choses. C'est des concerts que j'ai écumés et qui ont un rapport très corporel et qui est aussi dans une forme d'improvisation qui est vraiment dans le présent et qui a un fort rapport à... ça se joue dans des toutes petites configurations. En général, les salles peuvent accueillir peut-être 40 personnes maximum, et en général, on est plutôt 10. Donc il y a un rapport physique au fait d'écouter un son. Et ça m'intéresserait.
Voilà, là, on parle de la musique savante, c'est-à-dire des musiciens qui maîtrisent leur instrument. Ou ça peut être aussi de la noise.
Tout ce qui est noise et bruitisme, et etc., m'intéresse énormément. Mais pour moi, c'est de la musique savante, malgré tout.
Enfin, oui, voilà.
C'est au contraire, c'est très travaillé. c'est vraiment intéressant.
Je reste attachée à l'image du violoncelle. Mm. C'est pour ça.
Bah oui.
Je m'étais posé la question, comment ce violoncelle sonnerait-il ?
Exactement, et c'est la musique que j'ai vue beaucoup et qui m'a vraiment touchée, que j'aimerais peut-être trouver une façon de réintégrer. C'est des musiciens qui utilisent leur instrument classique de façon... tout l'instrument est concerné. Les cordes, le bois, le truc, on fait ce qu'on a à faire avec, quoi, peu importe. Mm.
D'accord. Donc il y a ce rapport à la musique qui est déjà présente et assez précis. Mm. On a parlé de la couleur, des couleurs plutôt qui résonnent par rapport à la terre. Et puis, tout à l'heure, il y avait aussi cette notion qui arrivait tout de suite de l'écriture. Alors comment il entre dans cette constellation ?
J'ai mis quelques textes qui sont ici. Depuis le début, j'ai toujours eu le cerveau un peu divisé en deux, avec d'un côté le besoin d'avoir des choses dans les mains. Et puis ça me suffisait pas, j'avais aussi vraiment besoin d'un truc où au contraire, on s'en fichait que ça tienne debout ou pas, j'avais besoin d'être entièrement dans ma rêverie, quoi. Et progressivement, je me suis rendu compte que ce soit avec la céramique ou que ce soit avec l'écriture, finalement, il y avait une forme en morceaux. C'était des morceaux de texte, j'avais pas du tout l'envie d'une narration, de créer des personnages, d'être dans une logique du roman. Et que les textes fonctionnaient par une chose qui passe. Et de la même façon que pour la céramique, c'était le besoin de, pareil, un peu... enfermer un état à un moment qui est là et puis après le laisser filer.
Donc là, on se trouve devant quatre rectangles de texte qui sont montrés de la même manière que quelques dessins de l'exposition. Pour finir cette rencontre, je propose de plonger dans ces écrits. Dans une chambre, sous un lit, un sac que je tire pour l'ouvrir et regarder son contenu. Il est dans un tissu noir et mou. Je défais le zip, mais il est vide. Je suis déçue. Je le passe à mon épaule pour aller dans le salon. Je le pose au centre de la pièce, sur le sol. Je le laisse ouvert, sans contenu. Il reste plusieurs semaines, plusieurs mois. Il reste ouvert et vide. Je le nettoie pour qu'il n'y ait pas de poussière qui s'accumule. Un jour, j'ouvre un tiroir, je choisis un objet, je le lave et je le mets dans le sac. Je recommence le jour suivant. Et un jour, le sac est rempli. Alors, je peux partir. Les pièces, grandes et vides, le parquet, un peu vieux, pas très bien entretenu mais sympathique, l'air qui circule. J'ouvre la fenêtre qui donne sur l'escalier des secours. On est en juillet, et il fait beau. Je sors un moment sur l'escalier en fer et je regarde la rue, les gens. Je reste longtemps comme ça, à tout regarder. Je suis très bien, très disponible, entièrement ouverte à ce qui arrive de l'extérieur. Puis je rentre en me courbant sous la fenêtre et reste ensuite un peu comme ça, sur un gros fauteuil, sans rien faire, au soleil, avec tout cet air de juillet qui emplit la pièce et une immense quiétude. Un sentiment immense de quiétude et quelque chose d'élégant ou de léger, de très doux, de très très doux. Dans cet appartement, ce jour-là, c'était le 9 juillet, c'était mon anniversaire, et ce jour-là, j'étais heureuse. Et tel Adnan m'avait offert un jour une aquarelle sur un Leporello. Elle savait que je n'étais pas fixe, que je cherchais quelque chose, que je oscillais constamment. Alors, elle m'avait dit de passer la voir parce qu'elle avait quelque chose à me donner. C'était ça. Les Leporello, ce sont des carnets en papier épais dont les pages sont pliées en accordéon. Quand on les déplie entièrement, l'aquarelle se déroule. Si on le replie, on peut continuer à regarder les couleurs, mais différemment, en feuilletant une page après l'autre. Elle m'avait dit, comme ça, vous pourrez l'emporter avec vous dans vos voyages. Et c'est ce que je fais. Quand je déménage, que je vais habiter je ne sais où, pour une durée pas très claire, je le prends. Et quand j'arrive dans l'endroit, je le sors de mon sac en premier, je l'installe, et dès qu'il est là, je me sens chez moi. Ce qui m'avait touché, c'était l'objet lui-même, ses couleurs, son format, mais aussi l'attention d'elle à me laisser légère, qu'elle comprenait que j'allais devoir partir à nouveau, que je n'allais pas rester à Paris, que je n'allais pas tout de suite avoir une adresse fixe, mais que malgré tout, j'allais avoir besoin d'un sentiment d'ancrage que je pouvais placer, par exemple, dans cet objet-là. Si je reste un peu plus longtemps, si mon déménagement est plus définitif, alors je sors aussi d'autres peintures. Des tableaux encadrés sous verre, je plante un clou dans le mur, je mesure l'espacement entre chaque. C'est un processus plus lourd, c'est différent, et je ne suis pas sûre d'avoir besoin de ça. Les pliures du Leporello me laissent libre. Je pense à Ethel souvent. J'essaye de tendre vers elle comme un guide, une clarté, peut-être une solution. Je pense que ce texte, il dit beaucoup de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est assez... ça donne une autre ouverture. Ça parle de légèreté et en même temps, quand on regarde les pièces qui sont là dans l'exposition, on se pose tout de suite la question, comment on déménage ça? Comment on stocke? C'est très très lourd. Donc c'est étonnant ce rapport.
Alors, Ethel Adnan, elle sculptait, enfin elle sculptait, lapsus, elle peignait une montagne. Donc une montagne, ça se déplace pas facilement. Même pas du tout. Et une montagne, ça a aussi ce paradoxe qu'elle y retrouvait, c'est-à-dire d'avoir cette fixité, cette pesanteur. Et en même temps, elle, ce qu'elle peint, c'était son changement permanent dans la fixité. Donc, je pense qu'elle savait de quoi elle parlait quand elle m'a dit ça. Ouais.
Merci beaucoup, Léonore.
Merci beaucoup.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.